Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Atypique, inclassable, si différent qu'il ne laisse jamais indifférent, Francis Lalanne, homme multiple, pas toujours compris par ses contemporains, est un marcheur transversal. Exalté, cultivé, libre penseur, imprévisible, talentueux et nomade. Amateur de belles lettres, auteur de 22 ouvrages, comédien reconnu, nommé 2 fois aux Molières et interprète de chansons ciselées au fil de 20 albums en 40 ans de carrière. Francis Lalanne n'est jamais là où on l'attend. Pour célébrer les 40 ans de son premier grand succès, La Maison du Bonheur, eh bien une compilation, double CD, vient de voir le jour.
Europe 1.
Bienvenue dans cette émission, Francis.
Bienvenue, je suis tellement heureux d'être ici avec vous, Isabelle.
Ah, je suis ravie de vous accueillir. On a des choses à se dire.
Certainement.
Francis Lalanne, je suis tombée il y a quelque temps sur un ancien papier de Marianne qui, à votre sujet, disait « Aucun mégalomane n'est plus humble, aucun égomaniaque n'est aussi altruiste, aucun naïf n'est plus subtil ». Mais qui êtes-vous, en fait, Francis Lalanne?
C'est Yann Moix qui avait écrit ça. Oui, un très très beau papier. Très très beau papier d'Yann Moix. Oui. Vous savez, Francis, c'est un prénom qui vient d'une racine latine, Francus, qui donne aussi naissance au mot France, hein, au français, et qui signifie l'homme libre. L'homme libre. La franchise, par exemple, ça vient de là, etc. Je suis un libre penseur et acteur de mes pensées.
Voilà. Jolie formule. Bon, hippie, c'est également un terme, on pourrait dire désuet et dénaturé, mais que vous aimez, avec lequel vous aimez bien vous présenter.
Oui.
Comme il y avait le dernier des Mohicans, en fait, vous seriez le dernier hippie dans notre paysage médiatique.
Ben oui, pourquoi pas. En tout cas, je suis un hippie d'origine, hein, moi, d'époque, hein, puisque j'avais 15 ans dans les années 70.
Ouais.
Et je continue à jouer de la guitare comme on jouait dans les années 70, à chanter ces ballades voilà, qui étaient si chères au public des années 70. Donc, je suis plus un chanteur des années 70, en fait, que des années 80 en réalité dans mon essence, je dirais, même si après j'ai...
Dans votre ADN.
Oui, si j'ai traversé les années 80, etc., et 90, etc.
C'est parce qu'il y a une universalité dans tout ça.
Oui, dans l'âme, je suis un chanteur des années 70, et je pense que vraiment le grand apport pour moi à cette inspiration des années 70, ça a été toute la période de l'introduction de la musique urbaine, qui pour moi est très proche finalement de l'inspiration que des chanteurs des années 70. Moi, je me suis retrouvé vraiment beaucoup plus dans la musique urbaine que dans la musique des années 80.
Ouais. Oui. Alors, vous dites donc, je suis un homme libre, un homme qui n'a peur de rien ni de personne, un homme qui croit en l'homme. Vous ne croyez pas en cette société, mais vous croyez en l'homme qui l'a faite.
Alors, est-ce que c'est l'homme qui fait la société ou la société qui fait l'homme?
Je vous pose la question.
C'est une vraie question. En l'occurrence, moi, si je crois en l'homme, c'est parce que je pense qu'il a finalement toujours trouvé des solutions au système inextricable qu'il a lui-même créé pour s'aliéner. En fait, c'est dialectique. Dans l'histoire, c'est comme ça. Il crée un système, il s'aliène et il s'en affranchit. Je crois que c'est la respiration humaine qui est faite ainsi. Et je pense qu'il s'affranchira, enfin, l'homme et la femme s'affranchiront, l'humanité s'affranchira des systèmes qui l'aliènent aujourd'hui.
Alors Francis Lalanne, dans cette société, justement, on arrive au paroxysme de cette mode détestable du hating, c'est-à-dire le business de la haine, oui, colporté par le net, et est presque devenu une institution pour certains médias qui adorent transformer les interviews de certaines personnalités dites clivantes en séances de lapidation.
Oui.
En ce qui vous concerne, vous dites que celui qui a donné le signal pour lâcher les lions sur vous, fut Pierre Desproges, oui, dans l'émission Le Tribunal des flagrants délires.
Oui, oui, et puis par la suite, oui, c'est d'ailleurs pas que à mon sujet, c'est quelqu'un qui a finalement institué dans la bobocratie régnante aujourd'hui, cette société de la bien-pensance et qui explique à tout le monde ce qui est bien, ce qui est mal, qui est gentil, qui est méchant, etc., et qui s'arroge le droit de faire cela, eh bien c'est devenu une espèce de pape, et ce pape, oui, de la méchanceté, c'est lui qui a installé la méchanceté comme vertu, vertu médiatique et vertu sociale, et qui en a fait un système rentable d'ailleurs, puisque finalement on s'est rendu compte que dire du mal, ça rapportait de l'argent. Et cette société du mal dire, il en est un des fondateurs, et je pense que bien heureusement aujourd'hui les gens se rendent compte que cette société du mal dire n'apporte pas l'harmonie entre les gens, et elle est en train finalement de s'affranchir de cette société-là. J'ai écrit un livre là qui va bientôt paraître sur Baudelaire, qui s'appelle « Ta gueule Baudelaire » ou « Les fleurs du mal dire ». c'est où je montre comment des gens, des intellectuels, finalement, ont servi même de prétexte à cette société du mal dire. Par exemple, le mal que Baudelaire dit du peuple belge à la fin de sa vie, alors que le peuple belge a donné un avenir à son œuvre, puisque sans les Belges, on n'aurait pas publié Les Fleurs du Mal pendant un siècle. Hein. Mmh. Vous savez que c'est en 1947 mmh. qu'on autorise la publication des Fleurs du Mal. Et pendant toute cette période, Les Fleurs du Mal ont été publiées en Belgique.
Et malgré cela,
il termine sa vie d'écrivain en écrivant un petit fascicule qui s'appelle Pauvre Belgique, qui est un fascicule d'insultes écrit de manière assez vulgaire et pas digne du tout de sa plume, pour dire du mal des Belges. Et je pense que ce genre d'ouvrage, ben, c'est à l'origine de cette société du dénigrement qui finalement fournit à la bobocratie bien pensante au pouvoir le droit de jeter tel ou tel artiste non acquis aux thèses du pouvoir au GN.
Alors, non seulement le cynisme est devenu une vertu médiatique, une espèce de talent estampillé, mais la pensée unique sévit, ce qui est dangereux pour quelqu'un qui, comme vous, voit le monde différemment. D'ailleurs, déjà Guy Béard, il y a longtemps, chantait « Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté ». On vous en veut, en fait, Francis Lalanne, de voir le monde autrement?
Bah, le poète a dit la vérité, doit être exécuté. C'est une phrase qui illustre bien la société dans laquelle on est, où on ne veut pas que les intellectuels s'engagent contre les idées qui sont celles de la pensée unique, justement. La pensée unique, ça va avec la société du mal dire. C'est-à-dire que celui qui ne pense pas comme on lui dit de penser, eh bien, doit être jeté au feu, quoi. Il doit être lapidé, il doit être exécuté, comme le dit Béard. Et cette société-là, finalement, elle est assez cohérente et logique. Hein. C'est-à-dire que toute forme d'opposition ou de puissance d'expression non contrôlée par le pouvoir politique doit être détruite dans l'inconscient collectif et on utilise pour cela tous les outils de la société du mal-dire manipulés par la bien-pensance au pouvoir.
Mais alors, j'en reviens à vous. Il y a les médias et puis il y a la majorité silencieuse. Cette majorité-là, elle vous comprend? En tout cas, elle vous capte, elle vous devine.
Ben, sinon, je ne serais plus là, Isabelle.
Voilà.
Parce que vu ce que j'ai pris comme jet de pierre dans toute mon existence, si vraiment ces jets de pierre avaient un impact sur l'inconscient collectif, un impact réel, un impact profond, ben, des artistes comme moi n'existeraient plus. Et je pense que je suis un des derniers artistes aujourd'hui à s'engager comme on s'est engagé dans les années 70, justement, parce que ben, finalement, grâce au public, j'ai pu traverser tous ces jets de pierre et rester moi-même et indemne. Mes salles sont toujours, je joue toujours à guichet fermé depuis 40 ans. Et quelles que soient les campagnes de lapidation que j'ai subies, je continue à jouer à guichet fermé. Là, je viens de signer encore une tournée de 120 dates en Belgique à guichet fermé. Ça veut dire que je pense qu'il y a malgré tout une tentative du pouvoir d'aliéner la pensée en jetant certains artistes comme ça à l'opprobre, en se disant finalement l'inconscient collectif va enregistrer qu'il ne faut pas aimer ce genre d'artiste. Mais l'inconscient collectif finalement arrive malgré tout, quelle que soit la puissance du pouvoir, à garder sa liberté de penser.
C'est en compagnie de Francis Lalanne qu'on chemine cet après-midi. On le retrouve tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit Francis Lalanne.
Bon, on dit tout à nos auditeurs, bien
tout.
Sûr. On est dans le studio Coluche. Et pendant la pub, Francis Lalanne me faisait une confidence sur sa toute première rencontre avec Coluche.
Ah oui, oui. C'était au Café de la Gare. J'avais 20 ans. À l'époque, ma fiancée s'appelait Véronique Rivière. On était en train de s'embrasser au Café de la Gare. Et tout d'un coup, je vois, pendant qu'on s'embrasse, entre nous deux, il y a, sortant comme un diable d'une boîte, le visage de Coluche, comme ça, qui jaillit, qui fait hey, on vous voit faire vos saloperies, hein, tous les deux. Hein. Voilà. C'était ma première rencontre avec Michel. Voilà.
Jolie présentation. Bon, revenons à Francis Lalanne, son profil d'Indien Comanche, lui qui est toujours vêtu en corsaire. Voilà, je reçois le plus libre des libres penseurs, nomade mais concerné, Francis Lalanne, dont les 40 ans de succès sont célébrés par une compilation double CD qui vient de sortir. Alors, Francis Lalanne, elle est presque trop jolie pour être vraie. La légende qui veut que vous qui êtes si perché, si oui. Délicieusement perché, vous soyez né dans un avion au-dessus des nuages à 2000 mètres du sol. Oui, elle est vraie cette légende ou elle est un peu arrangée?
L'accouchement c'est pas terminé dans l'avion. Mais voilà, mais maman a commencé à avoir ses contractions dans l'avion, oui.
Parce que si ça avait été vraiment en plein ciel, cette naissance, je me demandais, bon, on a quelle nationalité quand on est en plein ciel?
On est apatride, je n'ai pas cette chance, mais je le suis dans l'âme, puisque je me considère comme un citoyen du monde.
Voilà, alors justement, vous, le citoyen du monde, Francis Lalanne. Vous êtes issu effectivement d'une famille cosmopolite avec des origines libanaises, béarnaises et basques. Et au gré des missions de votre père, qui était diplomate aux Nations Unies, vous avez eu une enfance voyageuse qui vous a fait vraiment assimiler d'autres cultures. Ainsi, vous avez grandi par exemple en Uruguay pendant combien d'années ?
Pendant une dizaine d'années, en fait.
À 10 ans ?
Oui. Je suis arrivé en France, j'étais un préado. Mais en fait, c'était parce que ma mère était née en Uruguay, une famille libano-irakienne. Mais c'était la première génération qui était née en Uruguay. Donc en fait, ma mère était uruguayenne en plus. Voilà. Donc en fait, oui, je suis un arbre cosmopolite.
Mais alors, vous avez vécu en Uruguay. Est-ce qu'il est inconcevable, inimaginable de vivre en France ? L'Uruguay, oui. Dans les années 60, oui. Ressemblait à quoi ?
Une terre de fraternité. En fait, moi, j'ai découvert la xénophobie et le racisme en fait, quand je suis arrivé dans mon pays, la France. Là-bas, j'étais un petit étranger qui grandissait sur une terre étrangère. Et on me regardait comme un trésor. L'étranger était considéré comme un trésor, comme une richesse, comme une valeur qui s'ajoutait à celle du pays. Et donc, quand on était étranger en Uruguay, c'était merveilleux d'être étranger. Et quand je me suis retrouvé, moi, arrivant en France avec un accent espagnol, puisque je parlais...
Vous parliez espagnol.
Oui, surtout. Eh bien, finalement, on se moquait de l'accent de ma mère. J'ai découvert finalement ce rejet de l'étranger dans mon pays, quoi. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en rentrant dans mon pays, on me traite mal, comme on traite mal un étranger. Alors que pour moi, être étranger, c'était vraiment, de la manière dont j'étais traité en Uruguay, c'était le top, quoi. Et d'ailleurs, il y a les deux, j'allais dire, piliers de la civilisation, c'est ce qu'on appelle la picardía criolla et la garra charrúa, c'est-à-dire la force des Indiens charrúas qui ne se sont jamais rendus aux Espagnols, et la picardía criolla, c'est-à-dire la coquinerie métisse, en fait. C'est-à-dire que quand on n'est pas métisse, finalement, là-bas, on n'est pas fini, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la richesse, c'est justement le brassage des civilisations, le mélange de toutes les origines, et ça, c'est considéré comme une richesse en Uruguay. Et quand je suis arrivé ici, il y avait cette espèce de peur de l'étranger qui se transforme souvent, hélas, en rejet.
Au pays des droits de l'homme.
Au pays des droits de l'homme.
Mais alors, restons un moment en Uruguay. Il paraît que votre maman, Saïd Manzor, qu'il est beau ce nom, fut un temps actrice et chanteuse à Montevideo.
Oui, elle avait gagné un concours organisé par Hollywood qui cherchait des actrices en Amérique du Sud. Et elle était arrivée première à ce concours. Et donc, elle devait jouer dans un film et dans une pièce de théâtre. Il y avait tout un... Et ses parents s'y sont opposés. Ça a été le grand drame de sa vie, en fait. Parce qu'à l'époque, une actrice, c'était assez mal vu. Hein. On voyait, dans certaines sociétés, on voyait ça un peu comme une fille un peu légère.
Votre maman était issue de la haute bourgeoisie.
Exactement.
Je crois, c'est son frère qui était consul au Liban ?
Consul général d'Uruguay au Liban, grand poète uruguayen. Mes grands-parents étaient des notables, en fait. Et c'est vrai que là, on voyait encore la vie d'artiste comme une vie
de femme légère.
Légère, voilà. Et donc, elle était mineure à l'époque. Et donc, ses parents se sont opposés à ce qu'elle finalement puisse bénéficier du prix qu'elle avait gagné. Et ça a été vraiment toute sa vie. Elle m'a raconté cette histoire en pleurant, quoi. Et je crois que j'ai réalisé pour maman, j'ai réalisé pas mal de ses rêves.
Voilà. Alors, quant à votre père, Francis Lalanne, il a élevé ses trois fils en les berçant de poésie, j'ai envie de dire de riches pas à La Fontaine. Enfant, vous saviez déjà que vous écririez ?
J'ai écrit depuis l'âge de 8 ans.
Oui.
Et je me rappelle très bien le premier poème que j'ai écrit. Oui. Il s'appelait « La mort d'Eldouin ». Oui. En fait, c'était plus simple pour moi de m'exprimer en écrivant.
Mais vous écriviez en espagnol ou en français, puisque votre langue au quotidien était l'espagnol ?
Alors, je pense, je parle, je crée, j'écris en trois langues. L'espagnol qui était la langue de ma mère, le français qui était la langue de mon père, et l'anglais qui était la langue de la nounou qui était galloise, qui me gardait de temps en temps. Et en fait, je continue comme ça. C'est-à-dire que parfois les mots me viennent en anglais ou en espagnol ou en français, et ça devient une chanson en espagnol, en français ou en anglais. Mais parce qu'on ne peut pas toujours dire les choses d'une langue à l'autre. Ça n'est pas toujours possible. Et moi, je le sais parce que comme j'ai ces trois langues en permanence dans mon esprit, l'émotion va choisir sa langue. Et ça montre l'importance des langues. C'est pour ça que j'ai mené toute ma vie un combat pour la défense des langues, pour essayer d'empêcher les langues de mourir. Chaque fois qu'une langue meurt, c'est un moyen de plus pour l'humanité de faire valoir ses droits et de faire valoir son âme.
Vous aviez quel âge lorsque vous êtes revenu en France ?
12-13 ans.
Voilà. Alors, Bon, j'imagine que ce long voyage, surtout le fait de quitter l'Uruguay, a dû vous arracher le cœur. Oui. Mais en même temps, la France, c'était celle du soleil de Marseille, où vous avez terminé votre scolarité, dans un établissement jésuite d'ailleurs. Mais oui, bien avant de décrocher votre bac avec mention très bien, il paraît que justement à cet âge-là, 12-13 ans, vous avez eu l'audace d'aller vous présenter seul, avec une guitare, pour interpréter des chansons donc de votre cru, et les montrer au fondateur du célèbre théâtre Tourski à Marseille. Vous vous souvenez de ce premier jour où vous avez donc osé votre premier pas vers une carrière artistique ?
Richard Martin. Richard Martin qui m'a ouvert la porte du théâtre, m'a dit « qu'est-ce que tu veux ?» Je lui ai dit ben, « je veux faire un spectacle dans ce théâtre ». Il me dit « ah bon, très bien, tu es acteur ?» Non, je suis chanteur, je voudrais chanter des chansons. J'avais ma guitare, il m'a dit
« vous aviez 12 ans et demi ?»
Oui. Alors il s'est assis, il m'a dit « chante ». J'ai chanté pour lui pendant, je ne sais pas, une heure. Il m'a écouté pendant une heure. Et il a attendu que je m'arrête pour me dire « t'as autre chose à me faire écouter ?» Je lui ai dit « non, écoute, c'est merveilleux ce que tu chantes, c'est très beau. Ce théâtre, c'est ta maison, tu viens quand tu veux. Le jour où tu veux donner un spectacle, tu viens. »
Et théâtre... alors, le premier spectacle, vous l'avez donné peu de temps après ?
Vous savez, un enfant, pré-ado, j'avais besoin, comme on va dans une église, chercher l'accueil. J'avais besoin d'être accueilli.
Et chercher un signe.
J'avais besoin d'être accueilli. J'avais besoin d'une confirmation, c'est-à-dire que la voix que j'avais choisie, c'était une voix de fraternité, de chaleur humaine. Imaginez qu'il m'ait viré du théâtre. Et ça, c'est l'âme extraordinaire et magnifique de Richard Martin, qui est un des plus grands hommes de théâtre qu'on ait jamais eu de tous les temps en France. Il y a un homme qui se bat en plus pour le théâtre populaire et qui continue à se battre encore. Mais il m'a tellement rassuré. Je suis parti avec ma guitare en me disant, je reviendrai. Voilà.
Oui, puisque je sais que je serai donc chanteur.
Oui, je vais préparer quelque chose et je vais revenir. Moi, je ne suis jamais revenu. Si, j'ai chanté 20 ans plus tard après, chez Richard. Mais ce que je veux dire, c'est que son accueil m'avait confirmé dans le fait que j'étais sur la bonne voie et qu'il fallait que je me fasse confiance. Et il m'a finalement accueilli dans la maison du théâtre.
Tout le contraire de ce qu'avait vécu votre maman.
Exactement. Exactement le contraire. Et voilà, c'est très important. Il n'y a pas que lui d'ailleurs qui a fait ça avec moi. Il y a Yvan Chiffre qui a fait ça avec moi. Yvan Chiffre faisait des spectacles de médiévaux. Il y a très longtemps déjà, il a inventé les Puits du Fou et tout ça, lui, avant tout le monde. Et donc moi, j'adorais tout le mythe de la chevalerie, etc. J'avais une épée, une armure chez moi, etc. Et donc je me suis rendu devant la porte de la salle où ça se passait. Enfin, c'était un lieu ouvert. Et je suis tombé sur lui et il m'a dit « qu'est-ce que tu fais ?» Et j'ai dit « je viens pour participer au tournoi de chevalerie ». Et là, il ne m'a pas envoyé sur les roses. Il m'a dit « mais est-ce que tu es chevalier ?» Je dis « pas encore. Mais... » « ben écoute, ici, il n'y a que les chevaliers qui peuvent participer. Donc, fais-toi sacré chevalier et reviens pour participer au tournoi. »
Et alors ?
C'est comme ça qu'il faut parler aux enfants.
Oui, certes.
Voilà.
Mais...
je me présenterai à un tournoi quand on m'aura sacré chevalier.
Le public vous a sacré chevalier, vous qui fêtez avec une compilation double CD vos 40 ans de succès. On trouve tout de suite Francis Lalanne.
Europe 1. Des souvenirs, des anecdotes, des confidences. Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie jusqu'à 16h sur Europe 1 et c'est Francis Lalanne qui se raconte aujourd'hui au micro d'Isabelle Morizet.
C'est en compagnie de Francis Lalanne cet après-midi qu'on agite les souvenirs et la balade est follement romanesque, intense. Alors cher Francis, on vous a quitté à Marseille, vous étiez adolescent, on vous retrouve à Paris, à la Sorbonne, étudiant la poésie métrique et la versification. J'aimerais bien savoir s'il est vrai que votre professeur de l'époque, donc Pierre Brunel, conquis par votre maîtrise de la poésie formelle, vous a proposé d'enseigner un jour à la Sorbonne.
Il m'a toujours conseillé de le faire, ce que j'ai fait. Et oui, il m'a dit un jour, tu devrais faire ça chez nous. Mais moi, j'ai transformé ça au départ en collection que j'ai dirigée, une collection sur les arts de seconde rhétorique que j'ai dirigée aux éditions Les Belles Lettres.
Oui.
C'était ma façon d'enseigner. Parce que quand on veut enseigner à des étudiants, eh bien, il faut avoir le temps de le faire. On ne peut pas le faire entre deux portes. Et pour le faire, il faudrait peut-être que je posasse un peu mes bottes de sept lieux. Vous voyez, voilà.
Bon, en tout cas, on a bien compris que vous êtes donc incollable sur les rondeaux de Charles d'Orléans et les triolets de Guillaume de Machaut. Mmh. Et vous dites d'ailleurs... les règles et les contraintes n'enferment pas l'art, au contraire, elles le libèrent. J'avoue que c'est quand même surprenant de la part de quelqu'un qui semble pulvériser en permanence justement tous les codes, les règles.
S'il n'y a pas de règles, on ne peut pas les transgresser. Et l'art est transgression.
Certes, mais on peut imaginer à 360 degrés sans code.
Mais l'art n'est que transgression. Et en fait, les codes permettent justement, un, de transgresser et deux, d'élever, les structures vers la liberté. Parce que justement, c'est comme un squelette qui tient un corps humain. Vous voyez, si plus la charpente est forte, et plus la chair est forte. Voyez.
Bon, alors, je continue de dérouler le fil. Francis Lalanne, pendant que vous deveniez un spécialiste de la poésie métrique enseignée à la Sorbonne, vous chantiez, bien sûr, guitare en bandoulière, dans le métro, terrasse des restaurants, même d'ailleurs dans les asiles, dans des prisons. Bon, c'est formidable, mais on est quand même très très loin de la sortie d'un premier album. Quelles planètes se sont-elles alignées pour qu'un jour, non seulement il existe cet album, mais qu'il passe en radio ?
Mais les planètes qui tournent. J'ai fait le tour des maisons de disques, d'accord ? Et je me suis fait jeter de toutes les maisons de disques. Et puis, je me suis dit, il n'y a pas qu'un étage dans ces maisons-là. Donc, je suis monté à l'étage supérieur de la première que j'avais visitée. Et là, j'ai rencontré un directeur artistique qui, lui, a voulu me produire. En fait, j'ai recommencé mon tour à zéro. Et c'est comme ça que j'ai trouvé quelqu'un.
Vous les avez eus à l'usure.
Non, j'ai recommencé. Voilà, le mouvement circulaire m'a finalement fourni ce qui ne me fournissait pas quand j'ai commencé à tourner.
Bon, alors j'ai eu raison de choisir la formule de l'alignement des planètes.
Oui, absolument.
Bon, ce premier disque, il a reçu le Grand Prix des disquaires de France. Trois mois plus tard, il était disque d'or. Six mois plus tard, disque de diamant. En fait, à 21 ans, Francis Lalanne, vous viviez de votre art. Et j'imagine que vous avez quitté la Sorbonne.
Ben, je me rappelle, je regardais les résultats des examens, puisqu'on avait passé là. J'ai dit à mes copains, rendez-vous l'année prochaine, parce que moi, j'avais fait ma licence, je voulais faire etc., continuer. Et on s'est revus 7 ans plus tard. Oui. Parce qu'il y a eu le Grand Prix des disquaires de France, le prix Raoul Breton, le prix du millionnaire du kilomètre, le prix international de la jeune chanson.
Le prix du millionnaire du kilomètre.
Oui, parce que c'était moi qui faisais le plus de concerts dans l'année. Oui.
Combien ?
La première année, j'en ai fait 385, c'est-à-dire 20 de plus que 2 jours dans l'année.
Mon Dieu !
J'avais des week-ends comme à Las Vegas, quoi, à 5-6 concerts, entre vendredi, samedi et dimanche.
Donc pas d'amis, pas de petites fiancées ?
Des fiancées, des amis, mais sur le chemin. Quoi. Rien de sédentaire, rien d'ancré, tout n'était que voyage.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est dans un contexte musical quand même assez particulier. On était en 79, oui, en pleine époque disco en France.
Oui.
Donc vous étiez à contre-courant.
Oui, mais parce que moi je m'inscrivais dans les années 70 en fait. Moi je suis un chanteur la dernière génération des années 70 en fait, j'ai envie de dire, au niveau de la production des disques. Mon premier disque il sort en 79. Moi je ne suis pas dans le mouvement des années 80. Je suis vraiment complètement imprégné par les années 70. Et donc je ne défends pas le disco, je ne défends pas tout ça. Je défends les guitares sèches, les balades,
l'acoustique, les
tout
textes
ce que...
ciselés.
Oui, et engagés. Tout ce que finalement aujourd'hui... aime retrouver et qu'on retrouve d'ailleurs sur les disques des PNL par exemple, ou de ces jeunes gens qui font de la musique urbaine et qui vont chercher ces sons des années 70 qui sont toujours les miens. Moi j'ai pas quitté ça. Voilà, je suis toujours un chanteur de folk et de rock music.
Et bien c'est en compagnie de ce chanteur de folk et de rock music qu'on se promène cet après-midi. On trouve tout de suite Francis Lalanne.
Et oui, il partage son regard sur le monde, il nous raconte son parcours. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
C'est peut-être lui, le dernier des Mohicans. Je reçois Francis Lalanne, dont une compilation double CD fête les 40 ans de succès. Alors Francis, vous êtes sans doute le seul artiste à avoir vécu autant de vies parallèles. Vous avez été gérant d'une entreprise de figurines et de petits soldats, directeur de collection aux Belles Lettres et chez Atlas, producteur de films, président d'un club de foot amateur monté en deuxième division, s'il vous plaît. Votre carrière théâtrale n'est absolument pas celle d'un chanteur, car elle vous a valu 2 nominations aux Molières. Vous êtes l'auteur de 22 ouvrages, dont plusieurs recueils de poésie. Vous avez été candidat aux législatives en Alsace en 2007, aux municipales à Montauban en 2008, aux européennes en 2009, aux législatives à Évry en 2017. En 2019, aux européennes, sur la liste Gilets jaunes citoyens. Et puis la dernière fois qu'on a conversé, vous viviez au Pôle Nord, au Groenland, où vous faisiez de la musique, donc avec des artistes dont les dialectes sont en train de disparaître. Bref, le terme hyperactif semble vraiment avoir été inventé pour vous. Mais cette hyperactivité, Francis Lalanne, elle cache quoi ? Est-ce qu'elle cache... une peur de disparaître.
Quand on est un chat botté comme moi, on a forcément plusieurs vies. Voilà. Et il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre.
Bon. Merci Grand Yamamouchi de reconnaître que ce titre est chargé.
Me convient parfaitement. Voilà.
Mais bon, tout ça, en fait, c'est naturel. Vous trouvez comment le temps vous vit ?
Je ne supporte pas l'idée de m'ennuyer, en fait. Ce n'est pas de l'hyperactivité, mais c'est surtout un système qui me permet d'éviter l'angoisse de la page blanche, du rien à dire, du rien à vivre, du rien à ressentir, du rien à exprimer. Pour moi,
Dont vous avez peur.
J'ai pas peur, mais pour moi, la vie n'est qu'échange. J'ai besoin d'échanger avec la nature, j'ai besoin d'échanger avec mes frères humains, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de partager, même le silence. Le silence qui est tellement fort de tout ce qu'on peut y mettre et y confier.
Le silence, mais pas seul, le silence à deux.
C'est ça. Le silence à deux, c'est une conversation.
Alors, une de vos amies, Francis Lalanne, affirme que, en fait, cet éventail de discipline et de talent fait votre force et votre handicap. C'est compliqué d'être Francis Lalanne.
C'est-à-dire que c'est toujours compliqué d'être ce qu'on est et de le rester, parce qu'on veut toujours vous modeler, on veut toujours vous faire rentrer dans les rails de la norme. Moi, ma norme, c'est la mienne. Alors, c'est vrai que en France, la pluridisciplinarité, par exemple, a toujours été un problème. J'en parlais avec mon ami Jean Marais, il me parlait des souffrances de Jean Cocteau parce qu'il s'exprimait dans plusieurs genres, le cinéma, la poésie, la peinture, etc. C'est vrai que, je parlais de ça souvent avec Gainsbourg aussi, qui avait lui-même renoncé à être peintre pour qu'on lui foute la paix. Mais c'est vrai que ça pose un problème dans ce pays, quelqu'un qui s'exprime dans plusieurs disciplines. C'est pas le cas aux États-Unis, vous voyez. Mais ici, on appelle ça de la dispersion. L'éclectisme.
Ouais. Alors, dans cette liste impressionnante, je n'ai pas cité le plus évident, hein, la chanson dont vos 40 ans de carrière sont consignés sur un double CD best-of. D'ailleurs, vous vous définissez en fait comme un acteur qui chante.
Oui.
Bon, on pourrait dire aussi un écrivain qui joue, ou encore un voyageur qui s'implique là où il passe, ou un performeur comme ça, pour la beauté du geste.
Oui, c'est vrai, je suis quelqu'un qui vibre. Voilà, je suis en état de vibration permanente et c'est vrai que pour moi, le voyage, ce n'est pas le contraire de l'ancrage. Je me définis souvent comme un arbre en voyage. Mes racines, ce sont mes branches. Elles sont plantées dans le vent, mais elles sont plantées.
Et vous la définissez comment, votre musique ?
Ma musique, c'est de la chanson. La chanson, c'est ni de la musique ni de la poésie. C'est un genre à part entière, mais aussi entièrement à part. Parce que c'est la magie de la rencontre entre les notes et les mots qui crée l'étincelle poétique. Une phrase commune, soudain, va être rehaussée par une mélodie savante. Et une mélodie commune va trouver dans une forme savante de quoi se définir. Elle serait indéfinissable sans les mots qui viendraient s'y adjoindre. C'est ça, la magie de la chanson. Quand vous dites à quelqu'un, j'aimerais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis, on a l'impression que vous parlez, mais quand vous dites je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis, les sons prennent un sens, le sens prend un son, et ça, c'est la magie de la chanson qui fait d'elle ce que je suis. Un chansonnier, Bruant, lorsqu'il était arrêté par la police, disait toujours, mettez bien sur mes papiers, profession chansonnier. Quand j'écris des textes, je suis poète. Quand j'écris des chansons, je suis chansonnier.
Francis Lalanne, quel que soit votre cheval de bataille, en fait, vous avez toujours la foi.
Oui.
Oui.
Oui, parce que la foi, c'est croire. Croire, c'est il y a toujours un doute sur l'existence de ce en quoi on croit. Et c'est ça la force de la foi, c'est de pouvoir finalement penser qu'une chose nous anime alors que peut-être elle n'existe pas.
Bon, alors, vous avez toujours mis le projet. La dernière fois, je l'ai dit tout à l'heure qu'on s'est vu, vous reveniez du Groenland. Un cybertour devait avoir lieu, financé par les internautes. Il a vu le jour.
Il a eu lieu.
Il a eu lieu.
Il a eu lieu. Maintenant, je suis en train de répertorier tout ce que j'ai ramené. Ça deviendra un disque. J'aurais voulu pouvoir le mener plus loin. C'est-à-dire que j'aurais voulu pouvoir aller au-delà de l'enregistrement de chansons. J'aurais voulu pouvoir organiser un concert comme ça, multiculturel et plurilinguistique. Et ça, je n'ai pas trouvé l'argent pour ça. J'ai pas trouvé les
producteurs. S'il y a eu Cybertour, il y a eu concert.
Il y a eu rencontre avec des artistes s'exprimant dans des langues en difficulté. Et il y a eu des séances d'enregistrement qui ont eu lieu. Certaines ont été publiées, d'autres le seront. Oui, en plusieurs langues. Notamment la langue rom, par exemple. J'ai fait des enregistrements en langue rom avec des chanteuses et des chanteurs rom.
Extraordinaire.
Voilà.
Bon, vous resterez à jamais celui qui a performé sur scène 7h30 d'affilée au Printemps de Bourges, 11h à Bobino et 12 heures
oui.
à l'Olympia.
Oui.
Non mais attendez, 12 heures à l'Olympia. Vous livrez les croissants. J'aimerais bien savoir au petit matin dans quel état est le public. Parce que si vous démarrez à 21h, s'achève à 9h du matin.
Non, on avait démarré dans l'après-midi.
Que se passe-t-il pendant 12 heures ? Vous ne faites pas que chanter, c'est presque un meeting.
On chante et on ne s'arrête pas de chanter. C'était comme une transe, si vous voulez. Et mon public arrivait avec ses vivres. Il arrivait avec ses vivres.
C'est-à-dire le public était donc prévenu que ça pouvait durer 12 heures.
Bah, peut-être pas 12 heures, parce que là, c'est arrivé ce jour-là. Non, mais 4, 5 heures, 6 heures, oui.
Mais alors, quand ça arrive 12 heures, les techniciens ne disparaissent pas, qui s'occupent du son, de la poursuite.
C'était un cataclysme. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui, mais pendant longtemps, les techniciens de l'Olympia, quand je venais voir un copain chanter à l'Olympia, ils disaient « Le fou, il arrive, attention !» Et ils fermaient les portes pour pas que je rentre, mais pour rire. Hein. Mais ils me disaient « Non, Francis, tu rentres pas, après on s'embrasse et je rentrais. » Mais c'est vrai que ça les a marqués profondément. Oui.
Bon, vous faites toujours, selon votre humeur, et la réceptivité, bien sûr, la complicité du public, des concerts fleuves, toujours ?
Non. Enfin, ça dure rarement moins de 3 heures. Mais comme avant, non. C'est fini parce que je pense qu'on est dans une autre époque. Je pense que le public n'est plus aujourd'hui prêt à vivre ça.
Il est trop habitué à zapper ?
Non, je pense que les choses ont changé. C'est lié à une époque. C'est lié à une époque où il n'y avait pas de limite encore. Je pense que là, les gens se sont pris quand même pas mal de rafales de limites. On les a beaucoup limités, quoi. On leur a mis dans la tête qu'ils étaient limités, qu'il fallait se limiter, que voilà. Il y a quelque chose qui a changé, quoi. Il y a une joie de vivre qui a disparu. Il y a une folie aussi qui a disparu. Il y a plus de rationalité, surtout chez les jeunes. Mais peut-être ça reviendra, vous savez, c'est cyclique. Peut-être qu'un jour, ça va me reprendre et ça va reprendre le public, on verra.
Vous êtes un nomade qui a besoin d'un point d'ancrage. Point d'ancrage, c'est la scène.
Oui, c'est ce que je vis avec les gens qui viennent me voir, c'est ce qu'on peut vivre de plus beau dans l'humanité. Quoi. Il n'y a que de la bienveillance, que l'envie de partager, d'échanger, d'exprimer l'amour et les belles valeurs de l'âme humaine. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'opposition, il y a une recherche collective. On ne peut pas vivre une plus belle harmonie avec les gens que celle qu'on vit en tant qu'artiste quand on monte sur scène. Oui.
Non, 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 elle n'est pas finie cette balade. On retrouve tout de suite Francis Lalanne.
Europe 1. Francis Lalanne fête un anniversaire important, ses 40 ans de carrière. Et il est l'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi jusqu'à 16h. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Francis Lalanne, depuis 40 ans que vous êtes notre barde, hein, libre penseur, exalté et impliqué, vous êtes fidèle contre vents, modes et marées à ce look de corsaire du roi avec vos cuissardes, votre catogan et puis le chapelet autour du cou. Pas évident en 2020, j'imagine, de trouver des cuissardes pour hommes en taille 46. Vous avez un fournisseur attitré.
Oui, c'est celui du Moulin Rouge. D'ailleurs, c'est le Moulin Rouge qui aujourd'hui fabrique ses bottes rue Fontaine, au 17 rue Fontaine. C'est Clairvoy qui fait des bottes sur mesure, oui.
Formidable. Alors en fait, vous êtes plus mousquetaire, corsaire du roi ou pirate ?
Corsaire.
Corsaire.
Corsaire, oui. Parmi mes héros, il y a le fameux Surcouf hein, qui a réussi l'exploit avec la Confiante.
La Confiante, c'était son bateau.
Oui, d'arraisonner trois vaisseaux anglais qu'il a pris en course, c'est-à-dire les deux escorteurs du vaisseau amiral qu'il a coulé. Puis il prend d'assaut à l'abordage le vaisseau amiral, il désarme l'amiral anglais et donc il ordonne la fin du feu puisque il s'est rendu à Surcouf. Et donc, de mauvaise humeur, l'amiral anglais dit à Surcouf « Oui, vous autres Français, vous vous battez pour l'argent. Et nous autres, Anglais, nous nous battons pour l'honneur. » Et Surcouf lui répond « Mais chacun se bat pour ce qu'il n'a pas, amiral.
» C'est magnifique. Magnifique. Bon, cher Francis, je vois vos prunelles s'allumer. Vous
oui.
auriez aimé vivre à cette époque. Corsaire du roi, ça vous aurait... bien plus est convenu.
Je me sens un peu corsaire du peuple, vous
oui,
voyez.
Oui, voilà.
J'aime être le corsaire du peuple. J'aime chasser, j'allais dire, les ennemis du peuple par mes courses poétiques.
Vous êtes à 60 ans en accord parfait avec ce look, comme vous l'étiez à 20 ans.
Oui.
Parce que vous y êtes absolument fidèle.
Oui, j'ai eu plusieurs périodes. J'ai eu ma première période, c'est une période indienne au début de ma carrière, entre guillemets. Enfin, je chantais souvent habillé en indien. C'était une période très indianiste. Et puis, tout d'un coup, ça a changé. Ouais, pour moi, aller dans un spectacle, c'est aller à une fête et le costume fait partie de la fête. Donc, et puis là, je me suis senti très bien, finalement, avec ces bottes de 7 lieues. hein, qui me rappelaient mes héros comme le Chaboté, le Marquis de Carabas.
Parce que je vous ai vu sur le tapis rouge du Festival de Cannes, chaussé de vos bottes de 7 lieues. Oui. En fait, comme ça n'a jamais été une mode, ça ne peut pas être démodé. Donc c'est oui. un look cohérent pour le marcheur transversal que vous êtes.
Le marcheur poétique, Jean Cocteau disait, la mode c'est ce qui se démode. Je pense que le Chaboté ne se démodera jamais.
Francis Lalanne, vous êtes un anti-consumériste. Que faites-vous de votre argent ?
Je le donne beaucoup. Je le partage beaucoup. Je m'en sers pour voyager. Vraiment, c'est le nécessaire, moi. J'ai supprimé le superflu dans ma vie. Voilà. J'essaie de posséder le moins de choses possible. Parce que je ne veux pas être possédé par ce que je possède. J'aime pas trop l'argent. J'ai écrit dans un poème, quand j'en ai dans mes mains, je sens qu'elles empestent. Je pense que cette chose a le pouvoir de nous rendre mauvais.
Alors, en ce moment, il paraît que vous habitez dans ce pays que vous affectionnez tant, la Belgique. Et votre bonheur à vous, c'est de parvenir à vous poser, comme ça, le temps d'un verre, sur cette grande place de Bruxelles, que vous trouvez aussi somptueuse que la place Saint-Marc à Venise.
Absolument, c'est un des lieux du monde où j'ai besoin de revenir. Je suis beaucoup en Belgique en ce moment parce que j'ai une tournée de 120 dates dans la Belgique profonde et citadine. Et c'est vrai que ça me permet de retourner assez souvent dans ce lieu que j'aime tant, dans lequel je me ressource, un lieu qui a été quand même habité par Victor Hugo. Et c'est là que le manifeste du Parti communiste a été écrit. Hein,
sur la Grand Place.
Oui, de la Maison du Cygne. C'est un haut lieu, finalement, de, j'allais dire, des arts et des lettres. Oui. Et Saint-Marc aussi, j'aime bien me promener sur la place Saint-Marc. Ce sont des lieux où je me ressource. Vous voyez, comme le chargeur de l'appareil qui nous aliène, là, vous savez, on a besoin de le recharger souvent.
Eh bien, vous rechargez comme ça.
Comme ça.
Bon, le peuple belge, il a une fantaisie, une ouverture d'esprit et une curiosité très proche des vôtres.
C'est vrai, je me retrouve beaucoup dans l'esprit un petit peu, c'est étrange pour le sudiste que je suis, hein.
Mais, oui.
Mais les gens du Nord, qui ont d'ailleurs dans le bleu, dans les yeux le bleu qui manque à leur décor, ben, les gens du Nord, ils ont cette façon de ne pas s'infliger la double peine, vous voyez. C'est-à-dire, la vie elle est suffisamment dure comme ça, si en plus il faut faire la gueule, non. Et donc, dès que ça va pas, on se retrouve entre potes, on boit des verres, on se remonte, on essaie d'être positif, de rendre les choses plus belles, de voir comment on peut s'en sortir, de voir la solution et pas le problème. Et ils sont solutionnistes, quoi. Moi,
solutionnistes.
Ouais, je suis pas problémiste, je suis solutionniste. Voilà.
Bon, vos enfants, eux, vivent en Australie. Pourquoi l'Australie ?
Parce que ils voulaient faire leurs études là-bas parce qu'ils avaient repéré des écoles qui leur plaisaient là-bas. Et donc, on a vécu à un moment donné au Costa Rica, on a vécu à Los Angeles, on a vécu... Ouais. Et quand, voilà, ils ont fini, ils ont gradué dans leurs écoles, et ils ont choisi leur école. Et leur école, c'était donc, pour ma cadette, c'était NIDA à Sydney, c'est une école d'acting. Et WAPA à Perth pour mes autres enfants. Et donc, j'ai suivi mes enfants.
Ah, il a suivi ses enfants. Artistes, eux aussi ?
Ben oui, j'en ai une qui est danseuse et acrobate, ma grande. Ensuite, j'en ai une cadette qui est actrice. Et une troisième qui écrit des scénarios. Voilà, et le petit, lui...
Neo-Cannes, parce qu'ils ont, ils ont des prénoms follement romanesques. Ea, Elia, Selena et Neo-Cannes.
Neo-Cannes, oui. Lui, il fait beaucoup de sport, mais je pense qu'il est très intéressé par le théâtre aussi.
Alors, quel père êtes-vous ou parvenez-vous à être avec vous qui êtes toujours sur les routes ?
Un père présent. Présent par son absence, mais jamais absent dans sa présence. Voilà, c'est très important. C'est la qualité de la relation de proximité. Voilà, c'est à ça que j'attache beaucoup d'importance. Parce que voilà, après, dans la distance, on peut être présent aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop présent avec les enfants. Il faut les laisser aussi s'élever par eux-mêmes.
Mmh. Vos enfants vous ont vu sur scène, Francis Lalanne. L'aîné, par exemple, a lu vos livres. Ils savent que vous proposez aux autres la vision d'un monde transversal avec une autre sensibilité, d'autres repères. Ils le savent, tout ça ?
Oui, je pense qu'ils sont assez, finalement, en harmonie, en accord avec ma vision du monde, qui est basée sur le respect de la liberté de chacun. Quoi. Ne pas envahir le territoire de l'autre, ne pas l'empêcher d'être lui-même, ne pas vouloir lui imposer ses idées, être à son écoute. Mes enfants, ils sont comme ça. Moi, j'étais comme ça avec eux, je ne me suis jamais imposé à eux. Je les ai toujours accompagnés comme un tuteur, mais je n'ai jamais voulu leur imposer ma vision du monde. Je ne répondais à leurs questions que lorsqu'ils me les posaient. Je ne réponds jamais à la question d'un enfant s'il ne me la pose pas.
Moi, j'en ai mille des questions à vous poser. Donc, on fait une pause, on se retrouve tout de suite en compagnie de Francis Lalanne.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite est fin sur Europe 1. On retrouve Isabelle Morizet et son invité, donc Francis Lalanne.
Francis Lalanne, des combats, des défis improbables, parfois des performances et puis des rêves dessinent vraiment votre quotidien. Vous êtes libre et parfois vous en payez le prix. Mais qu'est-ce qui vous réjouit le plus l'âme ?
Ce qui me réjouit le plus l'âme, c'est le lien qu'on peut créer, le lien humain. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans les lieux et les contextes les plus complexe et difficile pour créer le lien, l'être humain, il a cette faculté de créer la fraternité. Moi, c'est la fraternité qui me rend
joyeux. Il crée beaucoup la guerre.
Je pense que c'est la guerre qui le crée, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce de fatalité de l'opposition qui est liée aux structures qui président à la vie sociale. Mais en fait, la vie fraternelle, c'est la vie de l'âme humaine. La vie sociale, finalement, c'est un petit peu le monde, j'allais dire, l'organisation de la raison. Il régit nos existences, mais pas nos vies. Et en fait, ce qui est étrange chez l'être humain, c'est que c'est la seule espèce vivante qui a à la fois la jouissance du bien et la jouissance du mal. Les animaux n'ont pas la jouissance du bien et la jouissance du mal.
Ils ont la jouissance du besoin.
Ils ont leur jouissance, qui est celle de la nécessité, de l'instinct, de la conservation, etc. Mais il n'y a pas de jouissance du bien et de jouissance du mal en conflit chez les animaux. En revanche, chez nous, la jouissance du bien et la jouissance du mal sont en conflit. Et on a les deux. D'accord ? Et alors, ce qui est étrange, c'est que l'être humain, finalement, sacrifie le plus souvent la jouissance du mal dans ses actes, mais pas dans sa morale. Dans sa morale, il veut toujours faire présider la jouissance du bien et invoquer la jouissance du bien. Donc, il est clair pour l'être humain.
Donc, il y a des combats intérieurs.
Non, mais il est clair pour l'être humain que c'est le bien qui est bon pour lui. Et donc, c'est ça qui me donne espoir en l'être humain. C'est que dans sa conscience, c'est pas la jouissance du mal vers laquelle il voudrait tendre en réalité. Et c'est pour ça qu'il va s'en sortir.
L'endroit sur Terre où vous vous sentez le plus bêtement heureux et serein se trouve où ?
Là où mes pas me portent. Je déteste savoir où je suis, où j'en suis. Et j'aime tout d'un coup poser mon pied sur la Lune, c'est-à-dire dans un territoire inconnu.
Au beau jour, très tôt le matin, vous allez toujours courir pieds nus comme les Éthiopiens ?
Oui.
Toujours ?
Oui, parce que c'est très bon pour la santé.
Même en ville ?
Oui. Je conseille à tout le monde de marcher pieds nus. Oui.
Bon, en ville, c'est pas évident, descendre de bouteille.
Pas tout le temps, mais le plus possible. Parce que la plante des pieds a besoin de ça et elle régit tout notre corps. Hein. Et c'est sûr que, on n'a pas été créé pour marcher sur des semelles. Et à un moment donné, c'est vrai que c'est très important.
Dit celui qui porte toujours de hautes cuissardes.
Oui, oui, mais quand je ne porte pas mes cuissardes, je marche pieds nus.
Francis Lalanne, toutes vos incursions au théâtre ont été couronnées de succès, particulièrement votre performance dans L'Affrontement face à Jean-Pierre qui vous a valu une double nomination au Molière. Quand vous reverra-t-on sur une scène de théâtre ?
J'espère dans pas très longtemps. J'ai une très jolie proposition de Jean-Pierre Castaldi, mon ami, qui veut remonter Les Affaires sont les Affaires et qui m'a proposé de jouer avec lui. J'ai accepté déjà le principe. Ma dernière prestation, c'était la pièce de Tennessee Williams. Un tramway nommé Désir. Ça a été une performance qui a laissé des traces en moi. C'est vrai, ça a été un rôle terrible pour moi, le rôle de Stanley. J'ai dû réveiller des choses en moi qui étaient tragiques. Et donc, j'étais à la fois heureux de jouer ça et à la fois heureux d'arrêter aussi.
Il y a des rôles dont on ne sort pas indemne.
Oui, il y a des rôles dont on ne sort pas indemne. En l'occurrence, Stanley Kowalski, c'est un rôle dont on ne sort pas indemne. Parce qu'il nous oblige à aller chercher en nous la pire des violences. Et je suis allé la chercher et c'était la mienne.
Alors, autre façon de faire de la scène, c'est bien sûr la chanson. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la tournée en Belgique de 120 dates, mais en France, Francis Lalanne ?
Ben, vous savez, oui, je fais de temps en temps des concerts en France, mais finalement, je me rends compte depuis ces dernières années que c'est en France que je tourne le moins. C'est lié aussi à tous mes voyages. C'est sûr que j'ai envie de chanter partout où je voyage, mais c'est vrai que la France me manque, en fait.
La France vous manque.
Oui, la France me manque. Et de tous mes voyages, c'est finalement ce que j'ai retenu, c'est que la France me manque. Donc là, c'est vrai qu'avec ce coffret anniversaire, je reprends le chemin des studios.
Ouais.
Et je vais maintenant revenir en studio pour préparer une nouveauté que j'espère sortir en production en 2020. Et puis derrière, cette nouveauté, repartir en tournée en France. Oui, ça me manque, la France. Les tournées en France, parce que je fais de temps en temps toujours des concerts en France, mais la plupart du temps, je suis en tournée à l'étranger.
Une dernière question, hélas, ça file vite. le temps avec trop. Vous, cher Francis. Une dernière question. Ils sont où les Léo Ferré et les Jacques Brel en 2020? Chaque époque a les artistes qu'elle mérite.
Ils sont à leur place, dans le cœur de ceux qui les aiment et dans la transmission qu'ils ont faite aux générations à venir. Longtemps.
Vous croyez donc en l'efficacité de cette transmission?
Oui, 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 oui.
Mais dans la génération à venir, les auteurs.
Il y a du Jacques
tel
Brel.
Tel Ferré, tel Brel.
Il y a du Jacques Brel dans Stromae, vous voyez. C'est une chaîne de la fraternité, la chanson. On ne naît pas de nulle part. On est de nos racines. Ouais. Et nos racines, elles sont là de manière... Elles se transmettent dans l'inconscient collectif. Et on est imprégné par cet inconscient conscient. Et en fait, longtemps après que les poètes aient disparu, dit Charles Trenet, leurs chansons courent encore dans les rues. Mais pas que dans les rues. Dans l'ADN du principe créatif lui-même et par le fait que d'autres viennent après pour continuer ce que nous avons commencé, cette éternité-là, elle fait que ceux qui ne sont plus là le sont encore.
Merci pour ce moment précieux. À très vite,
à
cher Francis. À toujours.
À toujours.
Toujours disponible également sur Europe1.fr, les replays, les podcasts. N'hésitez pas à vous replonger dans les conversations d'Isabelle Morizet avec ses invités. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie revient bien sûr samedi dès 15h et nous serons en compagnie de Mathilde Amet. Europe 1.